Francis Gross Tanner. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, yeah. One love. What about the one?
Convoqué par la police pour apologie du terrorisme, l'ordre mondial est au bord de la rupture, selon un constat alarmant d'Amnesty International. Et puis oui, les poules ont des émotions, et c'est une étude scientifique qui le dit.
Bonjour Cyprien Sini.
Bonjour à tous.
Alors qu'on a appris hier que les jeux d'argent n'ont jamais généré autant de revenus, vous allez surfer sur les gains jamais réclamés par les gagnants.
Et oui, ça paraît fou, mais il y a des millions d'euros qui se perdent dans la nature. Enfin, c'est pas perdu pour tout le monde non plus, vous allez comprendre.
Rendez-vous après le journal.
RTL Matin.
Alors l'enquête avance donc sur la blessure par balle de Kenji Girac, touché d'une balle au thorax sur une aire d'accueil des gens du voyage en début de semaine.
Le chanteur de 27 ans dit s'être blessé lui-même, un accident donc à Biscarrosse dans les Landes. D'après les premières constatations, la balle a effectivement été tirée dans sa caravane où il se trouvait avec son épouse. RTL vous le confirme ce matin. On ignore encore en revanche s'il s'est bien procuré cette arme dans une brocante de la Teste de Buch. Brocanteurs et acheteurs sont d'ailleurs sceptiques, Vincent Serrano.
C'est en plein centre-ville, sur le carré de la place Gambetta, à 100 mètres de la mairie, qu'a eu lieu dimanche matin une première brocante organisée par Christiane, qui dit avoir éclaté de rire en apprenant l'existence de cet achat supposé. Avant d'ajouter, les seules armes que j'ai vues ici en 15 ans, ce sont des pistolets à eau, et les exposants comme les clients sont surtout des personnes âgées, ce que confirme Cindy, une habitante qui s'est rendue dimanche sur cette brocante et sur la seconde, installée en même temps à 2 km de là, sur le parking d'un supermarché.
C'est quand même assez grande, il y a quand même pas mal de personnes qui viennent sur le parking, ouais, de stand. Après, beaucoup d'habits, de vaisselle, de jouets, tout ça. Après, d'armes, non, j'y crois pas vraiment.
Dominique, l'organisateur de cette brocante, joint par téléphone, lui est formel. Il n'y avait pas d'armes vendues sur le parking.
Le règlement que j'ai fait dit de ne pas avoir d'armes fonctionnelles, que de collection. Mais moi, je n'ai pas vu. Et je n'ai pas vu d'attroupement.
Donc, pour vous, il n'est pas venu sur votre brocante?
Lui-même n'est pas venu, mais peut-être quelqu'un d'autre.
Kenji Girac n'a pas encore été auditionné par les gendarmes. Une audition qui pourrait avoir lieu dès ce matin si l'état de santé du chanteur s'est amélioré durant la nuit.
Le reportage de Vincent Serrano pour RTL. Les obsèques de Philippe auront lieu à 14h30 aujourd'hui à Grande-Synthe dans le Nord. Ce jeune de 22 ans passé à tabac en début de semaine dernière. La garde à vue d'un troisième suspect a été prolongée. Un adolescent de 15 ans, lui aussi roué de coups vendredi. Il nie avoir agressé Philippe.
Après la militante insoumise Rima Hassan, l'insoumise Mathilde Panot, convoquée à son tour par la police pour apologie du terrorisme.
Jean-Luc Mélenchon dénonce une volonté de protéger un génocide. Ce sont ses mots après la convocation de la chef de file des députés insoumis. Dans le viseur, Sophie Neumayer, un communiqué de la France insoumise publié le 7 octobre dernier, juste après l'attaque du Hamas en Israël.
Ce qui vaut à Mathilde Panot cette convocation devant la police, c'est un communiqué publié par son groupe parlementaire le 7 octobre dernier. La LFI décrit notamment l'attaque du Hamas comme l'offensive armée de forces palestiniennes. Des mots que Mathilde Panot a repris intégralement sur ses réseaux sociaux. Alors, relève-t-il de l'apologie du terrorisme? Pour que ce soit le cas, trois critères. Ces paroles doivent avoir été tenues à l'attention du public. Il faut qu'il porte un jugement favorable. Et enfin, que l'acte qualifié soit un acte terroriste. Lors de son audition, les enquêteurs vont chercher à comprendre dans quel contexte les propos ont été tenus et quelle portée elle souhaitait leur donner. Ce sera ensuite à la justice de trancher. Depuis le 7 octobre, le pôle national contre la haine en ligne du parquet de Paris a reçu 390 signalements ou plaintes. Un peu plus d'une centaine a déjà été traitée. Par exemple, l'influenceuse qui avait ironisé sur la mort d'un bébé israélien dans un four, elle a été condamnée à 10 mois de prison avec sursis.
Les précisions de Sophie Neumayer pour RTL. Et pour rappel, l'apologie du terrorisme est passible de 75 000 euros d'amende et de 5 ans de prison. Israël, fermement résolu à mener une offensive sur Rafah où sont massés plus d'1,5 million de réfugiés. On est dans l'extrême sud de la bande de Gaza. Selon des responsables égyptiens cités par le Wall Street Journal, Tel Aviv se prépare à déplacer les civils palestiniens vers la ville de Khan Younes à proximité. Thèse impossible selon la Croix-Rouge internationale étant donné l'état de destruction sur place.
200 jours après le début de cette guerre, Amnesty International dresse un constat alarmant sur l'état du monde.
Selon le rapport de l'ONG, Gaza symbolise, je cite, l'échec moral absolu des architectes du système établi après la Seconde Guerre mondiale et redoute clairement l'effondrement de cet ordre mondial. Émilie Beaujard.
Oui, Amnesty International parle de mépris pour les populations civiles et le droit humanitaire international dans les conflits en cours. Jean-Claude Samouyer, le président d'Amnesty France, s'en prend notamment aux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Vous avez la Russie qui a envahi l'Ukraine il y a 2 ans et vous avez les États-Unis qui ne font rien pour que cessent les atrocités commises à Gaza. Ceux qui sont chargés de la paix dans le monde ne font pas le job et au contraire se servent de leur droit de veto finalement pour couvrir les exactions dans leur zone d'influence, ce qui est intolérable.
Amnesty dénonce un deux poids, deux mesures dans le traitement des droits humains, une tendance qui risque de scinder le monde en deux.
Effectivement, les pays du Sud qui disent « mais ne nous parlez plus, vous occidentaux, des droits humains, parce que vous en parlez quand ça vous arrange, mais quand ça vous arrange pas, vous n'en parlez plus, donc on va mener notre chemin nous tout seul et on va mener nos actions tout seul ».
Le rapport s'inquiète aussi du sort des civils dans les conflits moins médiatisés, comme en Birmanie, au Soudan et en République démocratique du Congo.
Explication signée Émilie Beaujard.
Pour les défenseurs des animaux, c'est une avancée majeure pour le bien-être animal. Oui, les poules ont des émotions.
Et même qu'elles rougissent, Jérôme, lorsqu'elles prennent peur, qu'elles stressent ou qu'elles sont en colère. D'après une étude de l'INRAE, l'Institut National pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, Virginie Garin, il faut regarder la tête de la poule, c'est ça ?
Oui, alors déjà, une poule sur la tête, elle a beaucoup moins de plumes. Hein. On voit sa peau qui est rouge. Et quand elle est stressée ou énervée, eh bien, elle devient encore plus rouge. Des chercheurs ont observé pendant 3 semaines dans une ferme du Val-de-Loire, 6 poules de race Sussex, excellentes pondeuses. Elles sont blanches à la queue noire. Ils ont pris 18 000 photos dans des contextes différents et ont constaté que face à un ver de terre, les poules, par exemple, devenaient plus rouges quand on essayait de les attraper aussi. En revanche, elles devenaient plus pâles quand elles étaient plus calmes et en présence d'un humain, quand elles sont habituées à lui, là encore, elles sont moins rouges, donc moins stressées. Essayer de comprendre les émotions des animaux, c'est important pour améliorer leur bien-être. Alors, d'autres chercheurs étudient avec des algorithmes le langage des poules, des cochons, des vaches, qui peut aussi traduire du stress, ce qui permet ensuite de faire évoluer les méthodes d'élevage.
Les explications de Virginie Garin.
Pas encore de dents, les poules, mais elles ont des émotions. Donc.
Évidemment que vous allez la faire, celle-là. Et puis, incroyable, tiens Jérôme, les plus que centenaires sont de plus en plus nombreux en France. D'après l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, ils sont 30 fois plus que dans les années 70, avec même l'émergence d'une nouvelle classe d'âge, les super centenaires, plus de 110 ans. Le profil, souvent des femmes qui ont fait des métiers difficiles comme agricultrices et qui ont mangé en majorité des produits sains et non transformés.
Voilà, qui nous prépare une nouvelle réforme des retraites. Hein. Les courses, elles ont lieu à Cordemais.
Les pronostics de Dominique Cordier, le 11, le 2, le 5, le 13, le 7, l'As, le 10. Et l'outsider de RTL, c'est l'As, Hold Up du Dijon.
Hold Up du Pigeon.
Du Dijon.
Ah d'accord, il y avait marqué Pigeon sur ma feuille, c'est pour ça que je voulais être sûr. Merci beaucoup. Vous revenez, Aude, à
7h30. À tout à l'heure.
RTL Matin, le surf de l'info.
Alors qu'on a appris hier, Cyprien Sini, que les jeux d'argent n'ont jamais généré autant de revenus, vous surfez ce matin sur les gains jamais réclamés par les gagnants.
Et oui, car bizarrement, on pourrait croire que au loto...
On perd, souvent, mais quand on gagne, plus rarement, ça ne s'oublie pas.
Et pourtant, et oui, c'est assez fréquent d'entendre ça.
Recherche millionnaire désespérément, c'est l'appel lancé par la Française des Jeux. Depuis maintenant 59 jours, un heureux gagnant de sa loterie qui a joué en Charente-Maritime ne s'est toujours pas fait connaître.
Eh oui, il n'est pas rare que la FDJ soit elle-même obligée de rechercher les gagnants qui ont 60 jours pour retirer leurs gains.
À partir du moment où la date de validité, de fin de validité de ce reçu arrivait, on lance un avis de recherche pour pouvoir retrouver ce gagnant, ces gagnants et leur permettre eh bien, de nous contacter au plus vite.
Et vous entendez donc dans les médias.
Mais où est donc le ticket gagnant d'un million d'euros validé dans ce café de région parisienne il y a 2 mois?
Sauf que parfois, le ticket, il est
perdu, oublié ou pire, passé à la machine à laver.
Ah ouais, ça c'est ballot. Alors, il y a quand même ceux qui s'en sortent in extremis, comme l'avait raconté cette dame de la FDJ.
La semaine dernière, il regarde donc le film Les Tuches. En regardant ce film qu'il aime beaucoup, il se dit ça doit être quand même fantastique cette sensation. Quand on gagne, ça doit être fantastique. Et il se rappelle qu'il a un reçu. Il se dit j'ai pas vérifié ce reçu. Et donc il réalise que c'est 1 million d'euros.
Ouais, merci Les Tuches quoi. Mais régulièrement, les gains ne sont donc jamais réclamés. Et c'est souvent ceux de l'Euromillion. Explication.
C'est que chaque joueur de l'Euromillion se voit attribuer, en plus de ses numéros, un code automatique. Et c'est ce code que les joueurs oublient de vérifier.
Et donc, 1 million leur passe sous le nez. D'ailleurs, généralement, les grosses sommes dites de rang 1 sont remises au pot. C'est ce qu'on appelle le loto de l'inconnu.
Nous avons 8 millions d'euros à vous offrir, auxquels s'ajoutent les 8 millions d'euros de l'inconnu, soit une somme exceptionnelle, 16 millions d'euros.
Eh oui, en revanche, toutes les autres sommes non réclamées, les 1 million par-ci, les 1 million par-là, c'est pour qui le jackpot? Eh ben, depuis 2019, le jackpot, il est pour l'État et ça rapporte. Écoutez plutôt.
En 2022, 117 millions d'euros, tous jeux confondus, ont été reversés dans les caisses de l'État.
Eh oui, il est quand même fort ce Bruno Le Maire.
Merci beaucoup Cyprien Signy, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Il est 6h11 sur RTL, on accueille Eric Brocardi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le porte-parole de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers. Merci beaucoup de venir nous voir ce matin. Vous êtes reçu depuis hier au ministère de l'Intérieur pour lancer le Beauvau de la sécurité civile. Vous alertez. Attention, on nous confie de plus en plus de missions, mais les moyens ne suivent pas, c'est ça?
En fait, effectivement, on nous confie de plus en plus de missions, c'est une certitude, parce que nous sommes un des derniers remparts du service public de proximité. C'est une nécessité aujourd'hui de continuer à apporter secours à nos concitoyens. On fait face aussi à un désert médical, on est sur des sujets assez prégnants sur la partie dérèglement climatique aussi, donc on doit faire face à tous ces enjeux.
On va détailler tout cela dans un instant.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, dans RTL Matin.
Aujourd'hui, nous sommes le 24 avril et c'est une journée de commémoration en référence au 24 avril 1915, date du début du génocide arménien qui a vu plus d'1 million de personnes victimes des autorités ottomanes.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, avec Laurent Deutsch, tous les jours à 7h20.
À tout à l'heure.
C'était bien ce leasing électrique. Ça rendait vraiment la voiture électrique accessible.
Oui, mais Fiat n'a pas attendu ça pour être accessible.
What?
Fiat étend le bonus écologique de 7000 euros à tous.
3000 euros de remise en plus?
Et la Fiat 500 électrique est à partir de 79 euros par mois seulement.
Plus de prise de tête. On file chez Fiat.
Fiat, l'électrique pour tous, mais surtout pour vous. LLD 37 mois, apport de 2650 euros, bonus éco 4000 euros, remise éco Fiat 3000 euros et prime à la conversion de 1500 euros déduits si accord crédit part jusqu'au 30 avril. Détails sur Fiat.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Fiat.
À tous ceux qui, après le repas, se transformaient en artistes avec la cire des Babybel. Je vous présente un cow-boy qui est tout rouge. C'est conceptuel. Papa, regarde, un diplodocus, mais tout rouge. Et un nez de clown. Oui, c'est très rouge, quoi, surtout. Chez Intermarché, pour l'achat d'un produit de la marque Babybel, le second est à moins 60%. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 28 avril, sur le moins cher des deux, Origine France, modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Renault. L'autre jour, un chef d'atelier Renault me demande « Monsieur José, vous pourriez nous aider à recruter pour le service après-vente ?» Et le voilà qui me parle de ses métiers de plus en plus technologiques, avec des formations régulières, bref, le gars passionné. Moi, je dis, il ferait mieux de parler à ma place.
Les ateliers Renault Car Service recrutent des mécaniciens, électromécaniciens et carrossiers, débutants ou confirmés. Postulez sur recrutement-réseau.renault.fr. Renault Car Service, numéro 1 du SAV 2024. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Source, l'Automobile Magazine 2023.
RTL Matin, Jérôme Florin.
À retenir dans l'actualité avant de retrouver notre invité en bref vers un jeudi noir dans les aéroports avec cet appel à la grève des contrôleurs aériens. Au moins 60% des vols supprimés au niveau national, 65% à Roissy-Charles-de-Gaulle, jusqu'à 75% à Orly. Les contrôleurs contestant la refonte de leur profession sans hausse des salaires. Pour boucler les fins de mois, on va y revenir à 6h30, les Français ont de plus en plus recours au crédit à la consommation. Ils étaient 33% il y a 4 ans, ils sont aujourd'hui aujourd'hui 40% à avoir au moins un crédit à la consommation en cours. Chiffre donné ce matin dans une enquête CSA pour Cofidis. Anne-Laure Marchal est directrice associée de l'Institut d'études CSA.
C'est 61% des détenteurs qui nous disent qu'en effet, le contexte économique, l'inflation, la hausse des prix, etc., la hausse des taux d'intérêt, a joué un rôle dans leur décision de souscrire un crédit à la consommation.
On y revient dans le journal de 6h30.
RTL.
Les trois questions du petit matin.
Comment repenser le rôle des pompiers? C'est toute l'ambition des concertations que vient de lancer Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Le Beauvau de la sécurité civile doit aboutir à des conclusions concrètes d'ici la fin de l'année. Avec nous donc Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Votre métier a changé. Ce n'est pas le même qu'il y a 10-15 ans.
Non, on était les soldats du feu. Vous connaissez un petit peu ce surnom que nous donnait. Donc aujourd'hui, on est les soldats de la vie avec 80% des interventions liées au secours d'urgence aux personnes. Et aujourd'hui, les soldats du climat au regard du dérèglement climatique. Donc effectivement, le champ missionnel des sapeurs-pompiers a grandement évolué. On doit faire face aujourd'hui aux enjeux que sont dus à des crises terroristes, à des crises sanitaires, à des crises technologiques. On est vraiment soumis aujourd'hui à une pression d'évolution à la fois de notre démographie, des changements structurels de tous les territoires et aussi des changements liés à l'impact sur la société aujourd'hui, puisqu'on est quelque part un peu l'éponge de la société qui réagit en temps et en heure aux besoins de la société.
C'est-à-dire que vous faites un peu le boulot des autres ?
Alors, on fait le boulot pas non seulement des autres, mais lorsqu'il n'y a plus personne, il faut bien que quelqu'un fasse ces missions-là. On fait des transports interhospitaliers, par exemple, pour transporter tout simplement une victime ou tout simplement une personne en attente de soins d'une structure hospitalière à une autre, c'est parce qu'il n'y a pas encore de ressources nécessaires sur l'ensemble du territoire pour permettre ce genre de mission. Quand on ferme des salles des urgences et qu'on rallonge le délai d'intervention, cela veut dire que quelque part, on oublie que nous, notre notion, c'est aussi de l'urgence et que la notion de maillage territorial, que ce soit au niveau de l'offre de soins comme l'offre des secours, est extrêmement essentiel aujourd'hui. C'est plus 6% d'intervention par rapport aux années précédentes, c'est une intervention toutes les 6,3 secondes. Oui. Ça repose en fait que sur 250 000 hommes et femmes, qu'ils soient professionnels comme volontaires. Et vous le savez, c'est 80% de volontaires aujourd'hui qui composent les sapeurs-pompiers. Donc que ce soit dans le milieu rural comme dans le milieu urbain, et on sait qu'aujourd'hui la France, elle n'est pas simplement dans les grandes villes, elle est surtout dans les territoires reculés sur lesquels il faut faire face et qu'on doit avoir une disponibilité des ressources.
Une intervention de la sécurité civile toutes les 6,3 secondes en France, c'est énorme. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui concrètement ?
Ce que l'on demande très simplement, c'est déjà pour faire face à tous ces enjeux. Vous savez, l'impact du dérèglement climatique, c'est 13,4 milliards d'euros sur le territoire européen au regard des inondations, des incendies. Donc il est évident que face à cette explosion d'intervention, face à tous ces défis et ces enjeux, il faut beaucoup plus de moyens. Les moyens évoluant aussi, on parle d'une modernisation du parc à matériel. Vous savez, les incendies de 2022 ont abouti à un pacte capacitaire déclenché par Emmanuel Macron et relayé par Gérald Darmanin pour permettre justement l'achat de véhicules supplémentaires, ce qui veut dire qu'il y a un besoin et une nécessité de moderniser. On a parlé au niveau de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France de faire appel à des plateformes comme Airbnb où il y a un déplacement de démographie dû à une offre de lits supplémentaires.
C'est-à-dire une taxe Airbnb ?
C'est-à-dire que oui, effectivement, une taxe ou tout simplement une rétribution qui doit être logiquement louée directement aux sapeurs-pompiers parce qu'un déplacement démographique engendre des risques.
Voilà. Avec Airbnb, il y a plus de logements occupés, donc plus de risques d'accident.
Et on le sait, 9 incendies sur 10 sont dus à un déclenchement et à une cause humaine. Mmh. Donc forcément, on le sait, dans le sud de la France, les incendies sont souvent liés à un déplacement de population qui ne connaissent pas les enjeux de protection des territoires et donc forcément, ce déplacement de population amène des risques. Donc ça, c'est qu'une partie, évidemment, il y a aussi, on peut parler...
Vous demandez plus de moyens, pardonnez-moi, mais vous savez très bien que c'est pas trop la mode de demander des sous, on n'en a plus.
Mais non, mais c'est sûr qu'il y a, comme vous dites, il n'y en a effectivement plus, mais par contre, il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce que l'on veut toujours avoir des missions régaliennes au niveau de l'État et de protéger l'ensemble de la population, ce qui est essentiel aujourd'hui? Quand on voit le bilan que je vous ai évoqué tout à l'heure, 44 morts sur l'ensemble du territoire européen, ne serait-ce que touchés par les inondations et les intempéries, donc cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu les sapeurs-pompiers, le chiffre aurait été beaucoup plus important. Donc il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce qu'on veut laisser la population vouer elle-même ou est-ce que l'on veut l'aider à subvenir à tous ces enjeux et ces défis climatiques?
Éric Brocardi, vous l'avez rappelé, le volontariat, c'est au cœur de notre modèle de sécurité civile. 200 000 sapeurs-pompiers sont volontaires en France contre 40 000 professionnels. Vous arrivez toujours à recruter ?
Ça devient difficile de recruter, de porter une attention particulière sur le fait qu'aujourd'hui, chacun et chacune peuvent porter et jouer un rôle essentiel dans notre société qui a besoin de plus en plus d'être engagé au profit des autres. Aujourd'hui, quand on est dans une société de selfie, c'est extrêmement compliqué de se tourner vers les autres personnes.
Ouh là là, vous êtes en train de dire que les gens sont plus égoïstes, qu'ils ne s'engagent plus ?
Je pense qu'à un moment donné, on regarde peut-être un peu trop son précaré plutôt que de s'ouvrir vers l'extérieur. Et je suis ravi que tout à l'heure, on puisse discuter des jeunes sapeurs-pompiers qui, dès le plus jeune âge aujourd'hui, essayent aussi d'avoir une solution, de pouvoir à la fois s'engager, de s'épanouir dans un monde où on offre un cadre, où on offre à un moment donné des missions et une ouverture vers les autres qui paraît aujourd'hui essentielle. Ça ne concerne pas que les sapeurs-pompiers, c'est aussi dans le milieu hospitalier, c'est aussi nos collègues de la gendarmerie et de la police nationale, parce qu'aujourd'hui je pense que c'est encore ultra nécessaire. Vous savez, quand vous rentrez dans une caserne, vous avez affaire à des humains. Quand vous arrivez sur l'intervention, il y a encore un contact humain, chose qui n'est pas encore évidente aujourd'hui quand vous allez dans les systèmes de banque où vous êtes justement derrière votre guichet automatique, il n'y a plus de relation humaine.
Engagez-vous, c'est le message que vous lancez ce matin aux jeunes qui nous écoutent. Merci beaucoup Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France. Merci. Bonne journée.
Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL.
Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
C'est le grand jour aujourd'hui pour le biopic d'Amy Winehouse.
Vous savez que c'est la mode à la chanteuse. La mode est au biopic de chanteur. Après Bob Marley, avant Michael Jackson ou Charles Aznavour, c'est le tour en effet d'Amy Winehouse. À vie partagée, je vais vous dire.
A tout de suite.
RTL. Julien Courbet, ça peut vous arriver.
Chaque année, il y a des petits malins, des escrocs tout simplement, qui vous envoient des mails pour vous expliquer que vous êtes un fraudeur en quelque sorte, en vous expliquant qu'il faut rapidement payer des sommes souvent très importantes. C'est plutôt bien ficelé. Ils prennent bien entendu le soin de vous mettre un lien qui va vous emmener sur un compte pour pouvoir payer. Donc si vous recevez ce genre de mail actuellement, méfiez-vous, ça sent quand même l'arnaque.
Le journal des arnaques, c'est tous les matins à 11h. Dans Ça peut vous arriver, sur RTL.
Et voilà votre nouveau pare-brise.
Pfiou, c'est tout propre ça. Va falloir éviter les moustiques hein.
Mais pour ça vous avez les essuie-glaces tout neufs.
Bah parfait. Bon, je vais peut-être nettoyer mes lunettes moi.
Jusqu'au 31 mai, Motrio vous fait profiter des balais d'essuie-glaces offerts pour toute réparation ou changement de pare-brise. Offre réservée aux particuliers, voire conditions dans les garages participants. Prenez rendez-vous sur motrio.fr.
Vivez un moment hors du temps et ressourcez-vous au domaine de Chaumont-sur-Loire. Découvrez plus de 30 créations remarquables réalisées dans le cadre du Festival International des Jardins. Chaque jardin propose une promenade unique autour du thème Jardin source de vie. Retrouvez le Festival International des Jardins de Chaumont-sur-Loire jusqu'au 3 novembre avec RTL.
Mano Mano. C'est le retour des Mano Mano Days. Des maxi promos pour vous équiper, comme sur le nettoyeur haute pression Karcher K5 à 199€.
Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire.
Mano Mano. C'est aussi des Pro Days sur le site et l'appli Mano Mano Pro. Mano Mano. Offre valable du 16 au 29 avril, voire conditions sur manomano.fr.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Merci d'écouter RTL.
RTL, vivre ensemble. Laissez-vous tenter, première.
Avec du cinéma et de la musique au menu ce matin, avec la sortie aujourd'hui du film Back to Black qui revient, Stéphane Boutsock, sur la vie et sur la carrière d'Amy Winehouse.
Oui, vie et carrière météorique. La chanteuse est morte en juillet 2011 à 27 ans seulement, après avoir sorti 2 albums vendus à 15 millions d'exemplaires dans le monde. Alors le film revient sur ce parcours marqué par le succès mais aussi les excès. On nous découvre comment le grand amour de la vie d'Amy Winehouse causera sa perte en l'initiant aux drogues et en amplifiant son alcoolisme. En fait, le film, c'est une histoire d'amour, tragique, parfois, franchement, lisse à l'écran, notamment le rôle angélique du père de la star, beaucoup plus ambivalent dans la réalité, comme l'avait montré le formidable documentaire Amy, qui était sorti en 2015.
Donc, si je vous comprends bien, Stéphane, Back to Black, c'est une fiction et pas un documentaire.
Exactement, celle qui incarne Amy Winehouse, et c'est vraiment le point fort du film, s'appelle Marisa Abella, jeune actrice britannique, on l'a aperçue dans Barbie l'an passé. Performance vraiment remarquable, physiquement et même vocalement. Elle est bluffante dans la peau de son modèle et parvient à nous faire comprendre comment ce diamant brut de la pop et du jazz a pu terminer son existence de manière aussi brutale.
with various documentaries.
Il y a ses documentaires et ses interviews d'Amy, mais aussi les photos connues des paparazzi. Tellement de choses sont disponibles. Il fallait donc s'éloigner de cela et plutôt enquêter sur ce qui lui est arrivé et pourquoi.
To Amy. It needed to be a story.
Nous voulions que ce récit lui restitue sa propre histoire.
Who was she?
Qui était-elle?
What did she want from life?
Qu'attendait-elle de la vie? Pourquoi l'avons-nous tant aimée? D'où venait sa musique? Qu'est-ce qui a inspiré ses albums? Et pourquoi les aimons-nous autant? Voilà ce qui m'a vraiment attirée dans le scénario. Bien sûr, Amy avait une voix incroyable et je voulais lui rendre cette voix ainsi qu'aux gens qui l'ont adorée pour qu'on entende son histoire à travers ses mots et ses paroles de chanson.
Back to Black, titre du second album d'Amy Winehouse. C'est titre donc du film de Sam Taylor Johnson avec Marisa Abella que vous pouvez découvrir à partir d'aujourd'hui au cinéma.
Un mot du box-office pour terminer.
Avec nos amis du site cbo.fr, les vacances de Pâques profitent au film jeunesse. Kung Fu Panda 4 reprend la tête du classement et cumule 1 750 000 entrées. Ducobu 5, Delice Moon progresse de 52% en troisième semaine. On frôle les 600 000 spectateurs désormais. Et puis pour les plus grands, le film Civil War démarre autour des 280 000.
Merci beaucoup Stéphane Boutsock. On vous retrouve à 12h50 dans Laissez-vous tenter midi aux côtés de Céline Landreau et d'Éric Brunet pour nous parler cinéma évidemment.
À tout à l'heure.
Tout à l'heure.
Laissez-vous tenter première.
Vos grosses têtes tous les jours 15h30, 18h autour de Laurent Ruquier qui a une question.
Quel était le nom de l'internat dans lequel on retrouvait Clément Mathieu?
Clément Mathieu?
Oui, Clément Mathieu.
Dans Les Choristes?
Oui, dans Les Choristes.
Ah oui, j'ai vu ce film. L'étang.
Comment vous dites?
Le fond de l'étang.
Fond de l'étang, il a de la mémoire. Oui. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Vous vous souvenez de la chanson des choristes?
Oui, hein. Vois sur ton chemin, trop vite oublié, égaré, donne leur la main pour les mener vers d'autres landes.
Oh ah, punaise, il a rien pour lui.
Vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h.
RTL, vivre ensemble.
Mode, pêche, nautisme, loisirs, tout l'univers de la mer est au comptoir de la mer. Retrouvez les plus grandes marques marines en magasin et sur comptoirdelamer.fr.
Marina, temps couvert ce mercredi.
Ah bah oui, on a une perturbation là qui s'étend du nord-est au sud-ouest et elle laisse un ciel bien bien nuageux. Il y a des petites averses de temps à autre dans cette zone-là. Pas tout le monde aura d'averses, hein. C'est vraiment les nuages qui vont dominer. Avec des averses de neige à très basse altitude, du Morvan en allant vers les Vosges, dès 300 mètres, il peut y avoir une petite pellicule blanche, plutôt 500 mètres au nord des Alpes et vers le Jura. Limite de neige qui va un petit peu remonter quand même dans l'après-midi. Donc la zone perturbée, c'est vraiment Nouvelle-Aquitaine en remontant vers le centre Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté et puis Grand Est. En allant vers les Hauts-de-France, la région parisienne, la Bretagne, les Pays de la Loire, eh bien on a un ciel de traîne, mais alors vraiment avec beaucoup de nuages et des petites averses aussi. Hein. Ça ne change pas tellement de la perturbation au final. Là où vraiment on a un temps sec et ensoleillé, eh bien ce sera en allant vers le Languedoc-Roussillon et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais vous avez toujours du Mistral et la Tramontane soufflant jusqu'à 80 km par heure. On a une zone très perturbée sur la Corse. Alors, perturbé, c'est-à-dire qu'on a des impacts de foudre là en ce moment sur l'ouest de la Corse avec des averses, averses de neige là aussi en montagne. Donc, un temps bien nuageux.
Et dans le ciel?
Les températures.
Bon, oui, c'est mieux comme ça.
Ouais, les températures, il y a encore quelques petites gelées qui traînent un peu moins parce qu'il y a des passages nuageux ce matin, mais on a quand même là en ce moment moins 1 à Clermont-Ferrand, il fait moins 1 à Guéret, on a 1 degré seulement à Lons, Le Saunier. Pour cet après-midi, bon, on aura à peu près les mêmes températures qu'hier, même ça baissera pour certains, notamment sur le nord-est. Bref, c'est frais. Pour la saison, 8 à Besançon, 10 à Lille cet après-midi, 12 à Paris, à Nevers et à Lyon. Il fera 14 à Brest et à Nantes, 16 à Bordeaux et Marseille et 18 à Montpellier.
Nous sommes le mercredi 24 avril et Véronique Sanson fête aujourd'hui son anniversaire, 75 bougies.
S'il te plaît, je voudrais
Le auditeur Hervé me dit, mais tu veux quoi d'autre? Mais c'est tellement beau, Baïa. Mais il y a tellement d'autres titres aussi.
Il y en a tellement.
Oh non,
non,
non, non, faire ça.
Quand je me suis fait ma loi, besoin de personne. Quand il est venu.
Allez, encore une petite. Oui. Et d'une
beauté.
Ouais, redoutable efficacité en tout cas. Dans un quart d'heure, votre tablé du petit matin, Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan et vous, Marina, bonjour à tous.
Bonjour.
Un point.
Qu'est-ce qui vous arrive?
C'est Florian qui imite Véronique Sanson.
Pas du tout.
C'est tout. Alba, un point, c'est tout. Il y a des élections dans un mois et demi, les européennes.
Et figurez-vous que les deux tiers des Français ne le savent pas, alors c'est le 9 juin en fait.
Marina, l'usine du monde sous les eaux.
Bah oui, les produits made in China que vous avez chez vous proviennent surtout du sud de la Chine qui subit des inondations exceptionnelles.
Martial, que cache l'ambition de simplification du gouvernement?
Eh oui, grande loi de simplification aujourd'hui avec nous. Bruno Le Maire. Voilà, on nous a déjà fait le coup. Je vous ai retrouvé quelques petites pépites, vous verrez tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui change cette fois? Je vous dirai ça.
Florian, les pourquoi de l'info ce matin?
Et on va parler d'Amy Winehouse. Son biopic sort au cinéma, Back to Black. Et ce matin, je vais vous expliquer pourquoi Amy Winehouse appartient au club le plus mythique de l'histoire de la musique.
A tout à l'heure. Très bon début de journée, vous écoutez RTL. Il est 6h30.
Jérôme Florin, RTL Matin.
Et on accueille Olivier Bois pour le journal. Bonjour Olivier.
Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous.
À la une ce matin, les Français qui ont de plus en plus recours au crédit à la consommation.
Oui, deux tiers des Français sont concernés et clairement l'inflation et la crise du pouvoir d'achat sont en cause. Dans ce journal également, les derniers résultats de notre baromètre RTL, justement pour les européennes. Le RN est toujours largement en tête. Le secteur du bio en pleine crise en France. Et puis après la mort de cette petite fille kurde dans la Manche, le maire de Vimereux alerte, les mois qui viennent peuvent être terribles.
RTL Matin.
Depuis 4 ans seulement, le nombre de Français à avoir souscrit un crédit à la consommation a augmenté de 21%, malgré les risques que cela comporte de surendettement vu les taux d'intérêt pratiqués. Mais la crise du pouvoir d'achat, alimentée par cette inflation galopante, ne laisse pas forcément le choix quand on a une grosse dépense à effectuer, Antoine Decarne.
Absolument, à cause de son budget serré, Sandra, auto-entrepreneuse de 47 ans, a enchaîné ces derniers temps les petits crédits à la consommation jusqu'à devoir faire face à une grosse dépense.
J'ai pris un crédit sur 15 000 pour changer de voiture. C'est 235 par mois sur 60 mois.
L'achat d'une voiture est le premier motif de souscription à un crédit à la consommation. Suivent les dépenses pour des travaux de rénovation et les achats d'électroménagers pour un montant moyen d'emprunt de 15 500 euros. Mais Sandra utilise aussi ses crédits pour le quotidien.
Quand j'en ai pour plus de 100 euros et que je sais que je vais être juste et que j'ai pas d'autre choix, je préfère étaler les dépenses.
Et le crédit à la consommation sert surtout à augmenter le pouvoir d'achat depuis le début de l'inflation. C'est le cas pour Franck qui habite en Mayenne.
On a fait aussi par rapport à Noël, faire des cadeaux pour les enfants. On avait acheté un petit aspirateur qui existe maintenant sans fil. Mais au moment, il faut faire stop parce que sinon, vous y arrivez plus.
Car c'est la voie royale vers le surendettement. La Banque de France a d'ailleurs vu le nombre de dossiers augmenter de 17% depuis le début de l'année.
Merci beaucoup Antoine Decarne. À retenir en France, l'enquête dans l'affaire Kenji Girac. RTL le confirme, la balle a bien été tirée à l'intérieur de la caravane où se trouvait le chanteur. Kenji Girac qui affirme que c'est lui qui a tiré accidentellement. Il doit être réentendu par les enquêteurs. À Grande-Synthe dans le Nord, les obsèques de Philippe Kopmann vont être célébrées à 14h30 cet après-midi. Le jeune de 22 ans est mort après avoir été roué de coups suite au on le rappelle, un probable guet-apens. Et puis la gauche, unanime, condamne la convocation par la police de Mathilde Panot, la présidente des députés insoumis, dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. Elle affirme que cela fait suite à un communiqué du groupe parlementaire publié le jour de l'attaque du Hamas contre Israël.
Les européennes ont lieu le 9 juin prochain, Alba le rappelait, et le RN creuse l'écart.
Oui, vous avez ce matin les nouveaux chiffres de notre baromètre hebdomadaire Harris Interactive pour RTL et Challenge. 31% 16% pour le RN, c'est en hausse de 1 point par rapport à mercredi dernier. Toujours 16% pour la liste Renaissance de Valérie Ayé. Et le PS Place Publique de Raphaël Glucksmann perd 1 point à 13%.
La France Insoumise menée par Manon Aubry reste à 8% d'intention de vote.
Et Harris Interactive continue de sonder les motivations de vote avec un gros plan cette semaine sur l'électorat musulman qui se tourne précisément assez massivement vers la France Insoumise. Écoutez Jean-Daniel Lévy qui est le directeur délégué d'Harris Interactive.
Nous avons une hiérarchie des intentions de vote qui est radicalement différente de l'ensemble des Français. 38% d'intention de vote en faveur de la liste qui est conduite par Manon Aubry. On peut rappeler qu'elle est créditée de 8% d'intention de vote au niveau national. Et on voit bien que les autres listes sont assez loin derrière et qu'une vraie différence, 8% de l'ensemble des Français, déclarent en fait qu'ils ont l'intention de voter en tenant compte de la situation en Israël et à Gaza. Ces 8% de Français se transforment en 25% des musulmans. Donc on voit qu'ils sont sensibles à une des thématiques phares qui est mise en avant de la part notamment de Jean-Luc Mélenchon, de Manon Aubry. C'est même la quatrième motivation de vote des électeurs musulmans devant des thématiques comme par exemple les retraites ou la lutte contre les inégalités sociales, alors même que ce sont des sujets auxquels les musulmans, qui sont souvent plus issus des catégories populaires que le reste de la population française, peut être également assez attentif.
Jean-Daniel Lévy, directeur délégué d'Harris Interactive, interrogé par Arthur Bélier.
Le bio va mal en France.
Oui, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau présente d'ailleurs un plan d'action. Aujourd'hui, le bio ne représente que 10% des surfaces agricoles. Il voudrait passer à 18% en 2027. Mais peu de gens y croient. Et pour cause, pour la première fois cette année, les surfaces bio devraient reculer en France, Virginie Garin.
Oui, d'abord parce que la consommation a baissé à cause de l'inflation, le bio est plus cher et puis les produits ukrainiens, surtout les céréales, qui entrent en Europe sans droit de douane, font baisser les cours. Les céréaliers bio qui ont des coûts plus élevés ne s'en sortent plus. Philippe Camburet préside la Fédération de l'agriculture biologique.
Quand les prix s'effondrent parce que le contexte européen le provoque, évidemment qu'en bio, on a aussi des prix qui baissent et j'ai beaucoup de moi de collègues aujourd'hui qui songent à repasser en agriculture conventionnelle, donc à utiliser à nouveau des pesticides.
10% de la surface agricole en France aujourd'hui est en bio. Le gouvernement compte passer à 18% dans 3 ans.
Cet objectif de 18%, il ne sera jamais atteint. Il n'y a pas suffisamment de moyens. On a beaucoup de fermes qui vont rester sur le bord du chemin. Pour la première fois depuis bien des années, on va observer un recul de l'agriculture biologique en France.
Le gouvernement a promis 80 millions d'euros de plus pour le bio. Il faudrait le double, répondent les producteurs, pour créer de nouvelles fermes et surtout conserver celles qui existe déjà.
Merci beaucoup Virginie Garin.
Dans un instant, ce nouveau drame de l'immigration dans la Manche. Une petite fille de 6 ans et demi est morte hier à Vimereux et le maire de la commune est très inquiet pour les mois qui viennent. Restez avec nous sur RTL. Il est 6h36.
RTL Matin.
Limousine.
À l'aubergine.
À la bénédictine.
À la poitevine.
À la girondine.
En mousseline.
Chez Micheline.
En mandarine.
Façon Justine.
En gélatine.
À la cantine.
En tartine.
En tagine.
En verrine.
So bling bling.
En smoking.
En jogging.
Chez la voisine.
De la grande cuisine.
Chez nous le bœuf. Il y en a pour toutes les bouches.
Bonjour Anne, vous êtes aidante.
Oui, depuis 2 ans maman est seule et je passe la voir tous les jours pour l'aider et qu'elle puisse rester chez elle.
Parlez-moi d'Intégrance.
Intégrance, c'est la mutuelle de maman et c'est aussi la mutuelle qui prend soin de moi. Entre maman, les enfants, mon travail, ça devient compliqué pour moi. Intégrance nous propose des solutions, ça nous aide beaucoup toutes les deux.
Comme Anne, presque un salarié sur 4 aide un de ses proches et s'expose à un épuisement physique et psychologique. Aidant, senior ou employeur, faites-vous aider. Rendez-vous sur intégrance.fr.
RTL Matin.
La suite du journal d'Olivier Bois à 6h37 et donc cette fillette de 6 ans et demi morte hier dans la Manche.
Il y a 4 autres victimes. La petite fille kurde était arrivée avec sa famille depuis quelques semaines seulement. Le bateau était surchargé hier. Les circonstances du drame restent, ceci dit, encore floues. Mais le maire de Vimereux s'inquiète. Depuis le début de l'année, les traversées ont augmenté de 40% et il craint beaucoup pour les mois qui viennent.
On va avoir la même chose dans 3 mois, hein. Peut-être même avant. Hein. Aujourd'hui, vous savez, je prie pour qu'il y ait une tempête. C'est hallucinant, hein. Je prie pour qu'il y ait des tempêtes, pour que les migrants ne puissent pas partir. Ce soir, il y a un train qui revient de Calais. On aura d'autres personnes qui vont venir pour retenter la traversée. Et c'est ça, c'est notre quotidien. Les beaux jours arrivent, forcément, il y aura davantage de traversées. Les JO, tous les services de police vont être réquisitionnés sur Paris, à juste titre. Mais nous, on va faire quoi au mois de juillet? On va faire quoi pendant les JO? je demande à voir des réponses.
Vous dites que ça va être encore des drames
Ben oui, c'est encore des drames qu'il va falloir gérer. C'est nous qui sommes sur le pont au quotidien et c'est nous qui devons assumer tout ça. Ça ne peut plus durer, je peux plus. Vous savez, quand vous voyez des corps, je suis allé avec mes services au bord de l'eau récupérer les corps pour les mettre dans le 4x4 pour les ramener sur la digue, on dort très mal. On se remémore toutes ces images. La fillette de 7 ans également, bah écoutez, ça touche énormément. Quoi. Et on ne peut pas l'accepter, ça.
Jean-Luc Dubail, le maire de Vimereux au micro RTL de Franck Hanson. Le tribunal de commerce d'Orléans dira cet après-midi si Duralex peut être placé en redressement judiciaire. L'entreprise de verre le demande et espère trouver ainsi un repreneur pour sauver l'usine qui emploie 230 salariés. Et puis ce sera demain un jeudi noir dans les aéroports. 50% des vols annulés partout en France, jusqu'à 75% annulés à Orly, 65% encore à Roissy ou à Marseille à cause de cette grève des aiguilleurs du ciel sur les conditions de travail et sur les salaires. Et puis à l'étranger, comme attendu, le Sénat américain valide les 61 milliards d'aide à l'Ukraine. Processus parlementaire bouclé et Volodymyr Zelensky remercie cette nuit les États-Unis.
La Ligue 1 de football et Paris qui a peut-être Paris peut-être champion ce soir.
Oui, le PSG affronte Lorient chez les Bretons à 19h. Si le PSG gagne et que Monaco fait un faux pas à domicile face à Lille, eh bien le titre est dans la poche, Philippe Sanfourche.
Oui, Paris encore en course sur tous les fronts et qui peut donc graver ce soir la première ligne d'un historique triplé Coupe, Championnat, Ligue des Champions. Dans cette dernière ligne droite de la saison, il faut remonter à 2020 et l'année Covid pour trouver trace d'un PSG en si bonne posture. À l'époque, l'entraîneur s'appelait Thomas Tuchel et avait buté sur la dernière marche face au Bayern Munich en finale de Champions League. Luis Enrique, aujourd'hui, assume cet héritage et la pression qui va avec, à commencer par ce titre de champion, possiblement validé ce soir.
Depuis le premier jour, j'ai dit qu'on était l'équipe favorite du championnat. On a le plus gros budget et le meilleur effectif. Donc c'est normal, mais je pense que la Ligue 1 est sous-estimée à l'étranger. J'ai été surpris par le niveau technique et tactique de la Ligue 1.
En étant sacré dès ce soir, le PSG pourrait faire encore davantage tourner son effectif, se préserver en prévision de la double confrontation européenne face à Dortmund les 1er et 7 mai prochains.
Merci Philippe Sanfourche. 3 matchs en retard donc ce soir de la 29e journée, 19h Lorient-PSG et 21h Monaco-Lille et Nice face à l'Olympique de Marseille.
Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 8h.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Depuis le début de l'émission, nous parlons beaucoup du couvre-feu instauré par les mineurs. Plusieurs villes l'ont décidé. Le maire de Nice, par exemple, Christian Estrosi, va le faire le mois prochain. À Béziers, la ville de Robert Ménard, c'est en vigueur depuis lundi pour les plus de 13 ans. Écoutez ce message de Violette laissé sur le message sur le répondeur RTL.
J'habite à Meaux. Notre maire, c'est Monsieur Copé, et effectivement, je fais appel à lui pour le couvre-feu pour les moins de 13 ans, parce que avec toutes les émeutes que nous avons eues dans la ville, il serait peut-être temps de sévir. Surtout que tous étaient des mineurs. Donc j'espère fortement que ce couvre-feu sera obtenu pour toute la France et que notre chère maire de la ville de Meaux fera partie de cela.
Écoutez cet autre message signé Thierry qui, lui, se désespère de voir l'État impuissant.
Vous vous rendez compte quand même que face à l'incapacité de l'État à endiguer la violence et la délinquance chez les jeunes mineurs, ce sont des élus locaux qui sont obligés de prendre des dispositions. Mais il n'y a franchement pas de quoi nous rassurer dans ce pays.
Le répondeur RTL et le débat avec les auditeurs qui reprend évidemment à 13h tout à l'heure sur RTL au 3210 avec Éric Brunet. Notre question du jour sur RTL.fr et l'appli RTL. Marina, est-ce que vous êtes comme vos enfants accro à TikTok? On pose la question puisque de nombreux pays comme les États-Unis cherchent à limiter l'influence du réseau social chinois. Et vous dites non à 93%.
Oui, à 4%, c'est un peu ce que l'on a aussi sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Vous êtes nombreux à dire non, que vous n'avez de toute manière pas de compte TikTok. Martinelle, même ses enfants n'ont pas de compte TikTok. Même chose pour Agnès, ses 4 enfants n'ont pas de compte TikTok. Nico, lui, en fait de temps en temps. Jean-Claude n'en fait pas, mais en regarde, hein, et c'est un papy, nous dit-il. Il faut vivre avec son âge et être à la page. Et à la page, Franck Lay, il a 66 ans, il fait des vidéos sur TikTok tous les jours, il a 10 000 abonnés. Bon, il ne nous précise pas sur quoi.
Merci beaucoup Marina. Dans votre tablette du petit matin, dans un instant, la simplification qui continue. Mais enfin, ce n'est pas la première fois qu'on nous fait le coup, hein, Martial.
Non, on va retrouver quelques dates ensemble dans quelques minutes, avec une spécificité qui est que c'est plutôt vers les entreprises cette fois-ci.
6h43.
RTL Matin. Avec Jérôme Florin.
Chez BYD, nous croyons en vos rêves, le rêve d'atteindre vos objectifs. Pour cela, BYD développe depuis 30 ans son expertise dans l'innovation pour vous proposer une mobilité décarbonée en toute sécurité avec des véhicules électriques nouvelle génération. Chez BYD, nous sommes l'harmonie entre technologie, design et exigence. Build your dreams. Donnez vie à vos rêves. Retrouvez votre concessionnaire BYD sur byd.com/fr.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Il était une fois, un prince et sa bien-aimée en quête d'une idée pour le dîner. Le nez dans le frigo, ils virent les endives Origine France à 1,95€ le sachet de 1 kg chez Aldi. Et purent ainsi se lancer dans la préparation de petites endives braisées. Eh, voilà, hein, ça fait le job comme on dit. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. En ce moment chez Aldi, offre valable jusqu'au samedi 27 avril. Info sur aldi.fr.
Invitez-vous dans les coulisses de RTL grâce au direct vidéo.
Rendez-vous sur rtl.fr ou sur notre application.
Bonjour, c'est Flavie. Papillomavirus, cancer, ado, il est des mots qui inquiètent. Et en tant que maman, je vous comprends. Le virus HPV touche 8 personnes sur 10 et peut provoquer des cancers. Mais que l'on peut prévenir grâce à la vaccination et au dépistage. Parlez-en à un professionnel de santé.
Contre le papillomavirus, protégez vos ados en collaboration avec MSD.
Jérôme Florin, RTL Matin.
Dans le journal de 7h, on va revenir sur cette étude. Certains additifs dans notre alimentation peuvent augmenter le risque de diabète de type 2. Le diabète de type 2 est le plus fréquent, c'est celui qui touche les adultes de plus de 50 ans en surpoids ou en obésité. C'est une étude publiée ce matin par l'Inserm. Ce qui est en cause, ce sont certains émulsifiants qui sont parmi les additifs les plus fréquemment utilisés par l'industrie agroalimentaire. Ils permettent d'améliorer la texture des produits, de prolonger leur durée de conservation. Écoutez le docteur Mathilde Touvier, elle a dirigé cette étude.
Les émulsifiants, ce sont un groupe de plusieurs dizaines d'additifs qui sont utilisés de manière très large pour améliorer notamment la texture des produits, gâteaux, pâtisseries industrielles, certains pains de mie ou bien des yaourts aromatisés par exemple.
On y revient dans le journal de 7h.
RTL Matin.
Merci d'être avec nous à 6h45. C'est votre tablette du petit matin avec Marina Giraudeau, Martial You, Florian Gazan et vous, Alba Ventura. Alors, on dirait que les élections européennes ne passionnent pas les foules, franchement.
Ah ben c'est pire que ça. 71% des Français ne savent pas qu'il y a des élections dans un mois et demi. C'est ce qui ressort du dernier Eurobaromètre publié par le Parlement européen. Bon, les élections européennes, je le répète, c'est le 9 juin. Il n'y a qu'un tour. Hein. Alors, nos amis belges sont davantage informés, mais ils ont une bonne excuse, ils votent pour leurs députés en même temps. Et puis en Belgique, le vote est obligatoire. Et alors, savez-vous qu'ils ont abaissé l'âge du vote à partir de 16 ans pour ces élections? Ce qui est sûr, c'est qu'en général, on s'intéresse à ces élections à peine 15 jours avant. Bon, j'entends déjà ceux qui disent, mais c'est à cause de vous, les médias, vous n'en parlez pas assez. Ce n'est pas très juste parce qu'on parle beaucoup plus d'Europe que les Français ne le perçoivent. Peut-être pas assez, allez, mea culpa, mais vous allez voir, ça va monter en puissance. Par ailleurs, on a souvent l'impression que cette élection se réduit à des bagarres de partis politiques, alors que les sujets européens dépassent largement ces guéguerres. Je sais que ce désintérêt s'explique parce que les Français n'ont pas une bonne image de l'Union européenne. Bon, nous ne sommes pas les seuls à être sceptiques en Europe, et c'est vrai qu'elle est loin d'être parfaite, cette Union européenne. Mais bon, je rappelle quand même en quelques mots que pendant le Covid, c'est l'UE qui a acheté les vaccins, que pour lutter contre le réchauffement climatique, par exemple, c'est au niveau de l'Union européenne que l'on se met d'accord pour des carburants synthèse pour des voitures propres de demain. C'est au niveau européen qu'il a été décidé d'avoir un chargeur universel pour vos tablettes et vos smartphones. Ça, c'est pour la fin de l'année, normalement. Et puis, vous avez vu à quel point l'Europe était au cœur des discussions dans la crise agricole. Bon, on devrait s'y intéresser davantage. J'espère que je prêche pas dans le vide. Parce que c'est une élection qui a vraiment un impact sur notre vie de tous les jours. Alors, allez, un petit effort. Nous aussi, on vous promet d'en faire.
Allez, c'est promis. Merci beaucoup, Alba. Un point, c'est tout. Marina, direction à présent la Chine, à 8000 km de chez nous, le sud de la Chine, victime d'inondations extrêmes depuis plusieurs jours. L'alerte rouge a été levée hier. Que se passe-t-il exactement sur place?
Alors, depuis une semaine, des pluies diluviennes s'abattent dans la province de Guangdong. C'est au sud de la Chine, au nord de Hong Kong. C'est une des régions chinoises les plus peuplées. 127 millions d'habitants, c'est presque deux fois la France. Et où se trouvent des dizaines de milliers d'usines où sont fabriqués les produits chinois envoyés partout dans le monde. Les Made in China que vous avez chez vous, c'est une des régions chinoises les plus puissantes économiquement parlant. Je parle sous le contrôle de Martial Liu.
Absolument, puisque c'est la capitale technologique. C'est là qu'on fabrique les iPhones, c'est là qu'il y a Huawei, donc c'est effectivement très important économiquement.
Et là, si vous allez voir des vidéos de la région, là en ce moment, notamment des vues aériennes, ce sont des kilomètres et des kilomètres de terrain, villes et campagnes sous de l'eau marron, des torrents torrents de boue aussi qui dévalent des montagnes avec une telle force, une vitesse qui emporte les voitures, arrive même à détruire des ponts. La grande peur des autorités en ce moment, c'est que des barrages cèdent. Par endroits, l'eau est même montée jusqu'au niveau des lampadaires, c'est vous dire la hauteur d'eau. Les autorités chinoises craignent, je cite, des inondations du siècle. 110 000 personnes là viennent d'être évacuées. Pour l'instant, les autorités parlent de 4 morts et 10 disparus, mais au vu des images, le bilan risque de s'alourdir.
On en voit chaque année des inondations en Chine, non ?
Oui, mais alors pas aussi intenses, et surtout elles sont précoces. La saison des pluies en Chine, surtout le sud de la Chine, c'est l'été. En avril, c'est beaucoup trop tôt.
Et ça vient confirmer le rapport de l'ONU publié hier, justement, qui dit que l'Asie a été la région la plus touchée par des catastrophes naturelles liées au changement climatique l'an dernier.
Exactement, et plus de 80% de ces catastrophes naturelles sont des inondations et des tempêtes, comme en ce moment en Chine. Selon l'Organisation Météorologique Mondiale, organisme de l'ONU, l'Asie se réchauffe plus rapidement qu'ailleurs dans le monde, et notamment la Chine, où les inondations sont plus fréquentes et plus graves.
Merci beaucoup Marina, 6h49.
RTL. Toute l'actu économique avec Préfonds. Retraite, prévoyance et épargne de la fonction publique. Rendez-vous sur préfonds.fr. Préfonds, le référent depuis 60 ans.
L'écho à New, Martial You. Alors Bruno Le Maire présente tout à l'heure son projet de loi de simplification en Conseil des ministres. Projet de loi pour réduire les démarches administratives et les normes. Bon, j'ai envie de dire encore une loi de simplification.
Ah, oui, c'est vrai que le mot simplification a sans doute été un peu galvaudé par nos gouvernants au fil des dernières décennies. Et on n'a pas forcément le sentiment que notre vie est plus simple. Hein.
Non.
Bah non, c'est ça. Ce qui est en partie faux d'ailleurs, je vais y revenir. Mais bon, cette fois Bruno Le Maire, il est assez malin puisqu'il ne parle pas de choc de simplification, ni d'un grand soir, mais d'une méthode qu'on amorce et qui va se diffuser au fil des années. Donc il y aura une cinquantaine de mesures immédiates. On va supprimer par exemple les 1800 CERFA. Vous savez, c'est ces fameuses feuilles de l'administration qu'il faut remplir pour faire ces démarches. Oui, mais ce sera d'ici 2030. Vous voyez, donc l'idée, c'est on y va tranquillement. La méthode Le Maire, c'est une revue annuelle des normes à supprimer. Un printemps de la simplification tous les ans.
Ça fait combien de fois qu'on nous fait le coup, Martial ?
C'est à peu près tous les 3-4 ans, j'ai regardé. C'est vrai que c'est vertigineux. Alors, quelques exemples. Mars 1985, Laurent Fabius, 20 propositions de simplification pour la France. Février 1989, Michel Rocard, le RSP, le renouveau du service public. Juin 1991, Édith Cresson, création de la COSIFORM, la commission pour la simplification des formalités.
Simplifié avec des noms extrêmement compliqués.
Janvier 97, discours de Jacques Chirac sur la simplification des rapports avec l'État. 2000, j'en passe quelques-uns, parce que 2014, Thierry Mandon, nommé secrétaire d'État à la réforme de l'État et à la simplification sous François Hollande. Et puis alors, évidemment, 2017, simplification étage 1 par Emmanuel Macron.
Et alors, est-ce que les normes ont baissé ?
Selon les éditions Dalloz, c'est ceux qui publient le code civil, le code pénal, le code du travail, Dalloz a calculé que le nombre d'articles réglementaires a augmenté de 53% en 20 ans.
C'est énorme.
Donc un bon lecteur mettrait 102 jours non-stop à lire l'ensemble du journal officiel et de ses décrets.
Sans s'endormir.
Le problème, c'est que tout ça a un coût. 3% du PIB perdu à respecter des réglementations parfois inutiles. 84 milliards par an.
Bon, alors si je vous écoute bien, les lois de simplification ne servent à rien.
Je dirais pas ça non plus, parce que disons que l'administration française a une capacité à créer des normes à l'infini. Mais on a beaucoup simplifié quand même la vie des Français en attendant ces dernières années. La déclaration des revenus pré-remplie, le prélèvement à la source, la carte vitale, le droit à l'erreur. Bon, tout ça, ce sont des simplifications. Le problème, c'est qu'on a créé d'autres normes en même temps et qu'on a beaucoup simplifié la vie des particuliers, qui se rendent même plus compte, mais beaucoup moins celle des chefs d'entreprise qui continuent, eux, à perdre beaucoup de temps avec des tâches administrative complexe. La suppression des CERFA dont je parlais, c'est vraiment pour eux.
Alors, qu'est-ce qui va changer concrètement dans les prochains mois là ?
Alors, vous allez avoir le bulletin de salaire simplifié entre 10 et 15 lignes au lieu de 55 actuellement. La taxe sur les surfaces commerciales que paient les patrons de boutiques, elle sera dématérialisée. Vous savez que ça fait 48 000 déclarations papier par an, ça. Les assemblées générales des grandes entreprises pourront se faire par visioconférence. Ça paraît évident, mais c'était très compliqué jusqu'ici. L'idée, c'est de libérer la charge mentale des patrons. Ça, c'est très bien, à condition de ne pas créer en parallèle d'autres normes, parce qu'on a quand même parfois l'impression d'être en face d'un lézard administratif. Une norme repousse à chaque fois qu'on en coupe une.
C'est ça. Votre note, pour finir, le pont du 8 mai, employé du mois.
Eh ben oui, ce long week-end qui associe 8 mai et jeudi de l'Ascension fait le plein ce week-end-là. Rallongé, donc, totalise plus de 37% des réservations de congés selon PAP Vacances. Destination préférée, la Bretagne. Bretagne.
Merci beaucoup, Martial. Ah ouais, les pourquoi de l'info, Florian Gazan. On en parlait tout à l'heure avec Stéphane Boutsock. C'est aujourd'hui que sort au cinéma Back to Black, le biopic consacré à Amy Winehouse, tragiquement disparue en 2011. Et ce matin, Florian, vous nous expliquez pourquoi la chanteuse anglaise appartient au club le plus mythique de l'histoire de la musique.
Oui, Jérôme, un club très fermé, autant qu'un cercueil, puisque justement, il rassemble des artistes qui sont tous morts au même âge, 27 ans, d'où son nom, le club.
Alors,
27.
Oui, c'est jeune, mais dans ces milieux où drogue, alcool et excès sont légion, c'est pas si surprenant.
C'est vrai, mais ce qui rend ce club très particulier, c'est le nom des artistes qu'il compose. Il a été inauguré, si je puis dire, en 1938, avec la mort toujours inexpliquée à 27 ans, donc de Robert Johnson, considéré comme l'un des plus grands guitaristes de blues de l'histoire. Il a d'ailleurs inspiré Bob Dylan, Led Zeppelin, Eric Clapton et les Stones. Les Stones, dont le fondateur Brian Jones s'est retrouvé mort dans sa piscine en 1969. Et il avait quel âge ?
27 ans.
Voilà, exact. Un an plus tard, un autre guitariste influencé par Robert Johnson décède. Son nom, Jimi Hendrix. Et devinez quoi, lui avait aussi 27 ans. C'est ce décès, dans des conditions un peu mystérieuses, on parle d'un mélange d'alcool et de barbiturique, qui va définitivement créer le mythe du club des 27, dont les rangs vont continuer à se garnir de noms cultes d'artistes symboles de leur génération.
Avec ça.
Alors ça commence, Marina, en octobre 70, mort de Janis Joplin, overdose, 27 ans. Juillet 1971, mort de Jim Morrison, le chanteur des Doors, crise cardiaque, 27 ans. Avril 1994, mort de Kurt Cobain, le leader de Nirvana, suicide, 27 ans. Et donc, juillet 2011, mort d'Amy Winehouse, surdose d'alcool, 27 ans. Avouez que la coïncidence est aussi morbide que fascinante. Et il n'y a pas que la musique qui est concernée. Le génie de la peinture contemporaine, Jean-Michel Basquiat, est mort en août 1988, lui aussi overdose, et il avait 27 ans. Alors à force, forcément, on a commencé à parler de maladie. Bah,
c'est sûr que ça fait beaucoup.
Oui, alors voilà pourquoi des Australiens ont voulu en avoir le cœur net. Ils ont étudié le sujet très sérieusement. Ils ont compilé les dates de décès de 12 000 chanteurs et musiciens rock et pop entre 1950 et 2014. Et ils sont arrivés à la conclusion que seulement 1,3% étaient morts à 27 ans. Oui. En fait, le club avec le plus de membres, c'est le club 56.
Ah bon ?
Puisque 56 ans, c'est l'âge où il y a plus de décès. Avec comme dernier membre très connu à intégrer ce club l'année dernière, la chanteuse irlandaise Sinéad O'Connor. Voilà, elle avait 56 ans. Ceci dit, le club des 27 n'est pas passé loin de s'agrandir avant-hier, puisque je vous rappelle que Kenji Girac, bah, il a 27 ans.
Oh
il a osé.
Il a osé,
Florian. Voilà. Merci à toute la tablée. Alba, on vous retrouve dans 20 minutes pour votre édito.
On n'entend plus Gérald Darmanin dans les médias. Pourquoi le ministre de l'Intérieur est si discret?
C'est vrai, ça, on l'entend plus.
Ah, vous avez remarqué aussi.
Ah oui, bizarre. Bonjour Louis Baudin.
Bonjour Jérôme.
Bonjour à tous. On va vous entendre micro ouvert, c'est mieux.
Il a 27 ans en plus, c'est bien.
Avec des températures qui augmentent un peu et puis un ciel qui se couvre.
Exactement, beaucoup plus de nuages aujourd'hui.
On va détailler tout cela dans un instant.
Merci d'écouter RTL. RTL, vivre ensemble.
Chaque mois, le magazine Ça m'intéresse vous donne rendez-vous pour vous étonner, vous émerveiller, décrypter le monde d'aujourd'hui et étancher votre soif de connaissances. Avec Ça m'intéresse, la curiosité, ça se partage.
RTL.
C'était bien ce leasing électrique. Ça rendait vraiment la voiture électrique accessible.
Oui, mais Fiat n'a pas attendu ça pour être accessible.
What?
Bah, Fiat étend le bonus écologique de 7000 euros à tous.
3000 euros de remise en plus?
Et la Fiat 500 électrique est à partir de 79 euros par mois seulement.
Plus de prise de tête. On file chez Fiat.
Fiat, l'électrique pour tous, mais surtout pour vous. LLD 37 mois, apport de 2650 euros. Bonus éco 4000 euros. Remise éco Fiat 3000 euros. Et prime à la conversion de 1500 euros déduits et accord crédit part jusqu'au 30 avril. Détails sur Fiat.fr. Pensez à covoiturer. Fiat.
Bien, j'ai parcouru votre CV, c'est très impressionnant. 12 ans d'expérience dans de grands groupes, comme dans une PME. Vous êtes expert en comptabilité, marketing, sécurité informatique, ressources humaines. Vous parlez anglais, chinois, hindi. Vous pouvez commencer quand ?
Désolé, le mouton à 5 pattes n'existe pas. Mais heureusement, sur APEC.fr, vous trouverez des solutions et de l'aide pour recruter le candidat qui correspond à votre TPE-PME. Rendez-vous sur APEC.fr, c'est gratuit.
APEC, donnez de l'élan à votre avenir.
RTL Matin.
Bon, Louis, c'est toujours pas un printemps radieux aujourd'hui.
Ah non, parce que là, les nuages reviennent. Ce matin, ils sont revenus en force dans la plupart des régions, avec parfois quelques petites pluies. Il y en a près de l'Atlantique, il y en a dans le nord, il y en a dans le nord-est. Alors, plus ou neige, parfois à basse altitude, sur les Vosges, Jura, des 300-400 mètres, parce que la fraîcheur est encore là. Et puis, pour trouver un ciel un peu plus dégagé, il faut aller tout près de la Méditerranée, où nous avons encore du Mistral et de la Tramontane, 64 km/h à Avignon, 70 à Martigues en ce moment. Et puis, cet après-midi, bien des averses encore dans la plupart des régions, alors principalement du sud-ouest, aux frontières de l'est, au nord de la Seine, également quelques pluies près de la Manche, peut-être un peu moins autour de la vallée de la Loire, et puis surtout près de la Méditerranée, il y aura toujours un petit peu de vent, jusqu'à 80 km/h. Il s'agit du Mistral et de la Tramontane, ciel un peu plus dégagé donc sur ce littoral méditerranéen, sauf en Corse, où là aussi il y aura un petit risque d'averse. Et puis les températures, c'est toujours aussi frais, moins 2 degrés au Puy ce matin, à Mende, moins 1 à Aurillac, à Guéret, 0 degrés à Albi, donc c'est encore frais, froid même. Et cet après-midi, c'est comme hier à peu près, 9 à 12 degrés dans la moitié nord, 13 à 17 degrés dans le sud, allez, 18 degrés quand même à Perpignan.
Merci pas beaucoup plus. Louis, et heureusement nos soleils du matin sont là. Amandine Bégaud, Yves Calvi, bonjour à tous les deux.
Nous brillons de mille feux parce qu'on vous écoute, vous savez.
Bon, en revanche, pour réchauffer, c'est pas gagné.
Bah non, il nous en veut le soleil, qu'est-ce qu'on lui a fait?
Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il nous en dit le loulou, le bodin?
Et de la neige, Louis, un 24 avril, c'est ouais, ouais.
Alors bon, on peut en avoir jusque début mai, mais c'est vrai que ça devient quand même un petit peu exceptionnel, ouais. C'est assez rare.
On va pouvoir skier au mois de juillet, comme dirait Bernard Morin.
Je crois que vous venez de ponctuer cette passionnante conversation.
Voilà. On se retrouve demain
à 4h30 avec grand plaisir et toute l'équipe des petits matins. Bonjour à tous, bonjour Amandine.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
De 7 à 70 milliards d'euros, c'est le coût des violences sexuelles dans notre pays. Rien que l'écart des chiffres montre à quel point on s'y intéresse peu. Un coût moral et financier totalement tabou à 8h20. La journaliste Virginie Kreski fera le point sur le coût caché des violences sexuelles. C'est le titre de son livre qui sort aujourd'hui, Le prix des larmes. Nous sommes le mercredi.